Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum de la presse de ce vendredi s'intéresse à quatre sujets. L'évolution de la situation sécuritaire au Mali avec la création de nouvelles structures à caractère ethnique et les déclarations optimistes de Barkhane et de l'ambassadeur de France au Mali par rapport à l'évolution à la lutte donc contre le terrorisme. L'adoption de la nouvelle loi électorale par l'Assemblée nationale, la migration avec le lancement d'un plan d'investissement pour l'Afrique et la mise en cours de certaines sociétés suisses qui exporterait, selon une ONG, des carburants toxiques dans certains pays africains, dont le Mali. Pour parler de tout cela, nous avons trois invités. Le premier, c'est donc Alexis Calambri, il est éditorialiste aux Échos. Monsieur Calambri, bonsoir.
Bonsoir.
Le second, c'est Boubacar Paintao, qui est de l'Indépendant. Monsieur Paintao, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons Aline Suleiman Drabo, il est éditorialiste à l'Essor. Monsieur Drabo, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, c'est Idoufou.
Le Grand Dialogue.
Premier volet de ce forum de la presse, l'insécurité au Mali. Sur le terrain, les choses ne s'arrangent toujours pas, en témoignent des dernières attaques qui ont malheureusement encore fait des victimes dans les rangs des forces de défense et de sécurité maliennes. Et pourtant, Barkhane et les autorités françaises semblent afficher un optimisme certain à travers des déclarations des responsables de Barkhane et de l'ambassadeur de France au Mali. En se référant à ce qu'ils disent, on peut penser que les mouvements terroristes au Mali sont si affaiblis qu'ils ne sont plus à même d'entreprendre des actions d'envergure. Alors, sur quoi repose-t-il cet optimisme? Je pose la question à vous, Suleiman Drabo.
Bon, je pense que ce que le patron de Barkhane et l'ambassadeur de France ont dit correspond au discours classique des Français. Parce que l'opération Serval qui a été suivie par Barkhane avait un objectif bien déterminé, c'était de libérer le nord du Mali des djihadistes qui occupaient les villes et le territoire. Et puis Barkhane, pour contenir cette menace terroriste qui vient en partie de Libye et sécuriser un peu le Sahel. Donc de leur point de vue, le job est fait en très grande partie. Mais du point de vue des Maliens, c'est une autre histoire, parce que les Maliens sont préoccupés de la sécurité sur notre territoire. Et la sécurité sur notre territoire, on le voit, les progrès ne sont pas évidents du tout. Au contraire, on a vu que la sécurité qui existait dans le nord s'est déplacée vers le centre et s'est même aggravée vers le centre, parce que malgré la période de l'hivernage, l'inondation d'une partie de la région de Mopti, et on a vu que le rythme des attaques terroristes n'a pas vraiment diminué. Et sur des tronçons comme Douanza, Douanza Ombori, Douanza Gao et Douanza Tombouctou, on voit que les attaques sont régulières, sont vraiment régulières. Donc du point de vue des Maliens, le discours des Français n'est pas très audible pour nous. Voilà, c'est tout. Deux approches différentes, si vous voulez, des problèmes de sécurité qui se posent au Mali aujourd'hui.
Alexis Calambri, Paris se veut optimiste, Barkhane également, mais quand on se réfère à ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, les Maliens sont loin d'être optimistes.
Votre lecture, hein? C'est comme disait Drabo tout de suite, en fait, on n'est pas sur le même registre que les Français. Serval était là pour libérer une partie du territoire malien. Après, Barkhane avait plus pour mission d'abord de contrer un peu les djihadistes qui proliféraient, de lutter contre ou de maîtriser les réseaux de trafic de drogue et de trafic d'armes. Je pense que, justement, de leur point de vue, ils ont fait leur mission. Mais en même temps, ils n'étaient pas là Ils ne sont plus là pour faire notre guerre à notre place, pour faire notre paix à notre place. C'est pour ça que vous voyez les attaques, et tant qu'ils ne sont pas touchés, concernés, ils ne bougent pas la plupart du temps, parce que je pense qu'il y a cette différence d'approche ou de compréhension entre eux et nos autorités. Eux ne sont plus sur le même registre que nous, en ce sens qu'ils se sont mis sur le segment de la lutte contre un certain terrorisme qui n'est pas le nôtre, donc ils ne se sentent presque plus concernés par nos quotidiens.
Alors, Boubacar Païnta, peut-être que vous comprenez l'optimisme des Français?
Bon, pas comprendre l'optimisme des Français, mais tout simplement, j'aimerais abonner dans le même sens que mes dédouaniers. Juste pour dire que la France agit selon ses besoins stratégiques sur cette partie du pays. Bon, maintenant, pour la France, bon, maintenant, à partir du moment où il n'y a pas de menace djihadiste, bon, il y a plus de problème. Parce que, alors que, c'est-à-dire qu'on a tout le temps dit que, entre les djihadistes et les séparatistes, c'est-à-dire que c'est un système de vases communicants. Maintenant, selon la circonstance, selon les besoins, ils sont djihadistes, soit ils sont séparatistes. Maintenant, bon, moi, je pense que de mon point de vue, cette différence de lecture entre nous et les Français, c'est peut-être à ce niveau. Parce que nous, on dit que c'est les djihadistes, le MLNA, c'est la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence nette entre ces deux. Hein. Mais pour la France agit selon ses besoins stratégiques et pas selon les besoins des Maliens. Donc, c'est bon. L'optimisme des Français, bon, je peux comprendre. Peut-être pour eux, la situation qui prévaut actuellement, ça leur permet de faire ce que ils envisagent de faire sur cette partie. Donc pour eux, ça va et puis voilà. Alors que on n'a pas besoin d'être dans les secrets de Dieu pour comprendre que la situation se dégrade du jour en jour. Maintenant, hier c'était le nord, aujourd'hui c'est le centre. Bon, un peu vers la région du centre, vers la région de Mopti, Ségou. Donc l'insécurité progresse vers le sud. Maintenant, si les Français trouvent que, mais malgré tout ça, que vraiment ils sont optimistes, bon, peut-être que, comme l'a dit mon directeur, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à cette question d'insécurité.
Cette question à présent, Souleymane Drabo, n'y a-t-il pas de risque que la situation sécuritaire du pays se complique davantage avec l'avènement de nouveaux mouvements à caractère ethnique aussi bien au nord qu'au centre du pays?
Oui, ça c'est l'évidence même. Quand on fait le décompte des attaques, des agressions qui ont lieu dans la région de Mopti, et qu'on voit aujourd'hui que dans la région de Mopti, il n'y a plus d'administration, une partie de la région de Mopti, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de justice. On a vraiment de quoi être inquiet, parce que ça c'est un délitement complet de la situation dans ces zones. Et on avait cru que même pendant l'hivernage, avec les territoires inondés dans la région de Mopti, que les attaques allaient diminuer, mais on a vu que ça n'a pas été le cas. Même vers Ténékou, où le terrain n'est pas très praticable, il y a eu une attaque cette année en plein cœur de l'hivernage. Donc ça, c'est très inquiétant. Je voudrais souligner aussi qu'il y a le fait que les conflits dans la région de Mopti tournent aux affrontements communautaires, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. Et c'est très dangereux parce que ça ne répond pas en fait à la réalité. Et la réalité, c'est que s'il y a des peuls, puisque c'est des associations peuls qui s'étaient réunies, s'il y a des peuls parmi les assaillants, il y a beaucoup de peuls parmi les victimes. Et il n'y a pas que des peuls parmi les assaillants, il n'y a pas que des peuls parmi les victimes. Donc franchement, on aurait pu comprendre que sur le plan démocratique, tous les responsables de ces zones mettent le débat entre victimes et assaillants, plutôt que entre peuls et d'autres communautés ou bien l'armée. Donc c'est une très mauvaise approche de mon point de vue. Hein. C'est une approche très dangereuse parce que là, quand on met le pied dans ces considérations communautaires, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait jamais jusqu'où ça peut dégénérer.
Alexis Calambri, un nouveau mouvement qui se signale au nord, une coordination d'associations APEL au sein du pays, vers quoi va-t-on?
Oui, comme le disait tout de suite Solo, il y a deux faits. Hein. Vous avez d'abord l'absence de l'État et l'absence ensuite de sécurité pour les populations qui amène cet instinct grégaire qui fait que chacun cherche à se protéger, à se sécuriser. Et à cela, si vous ajoutez tous ces conflits latents depuis des siècles qui ressurgissent, parce que bon, on se sent fort aujourd'hui, on remet sur le tapis des querelles qui n'ont jamais été vidées par l'administration, par la justice quand elle était là, et qui reprennent le dessus. Donc, vous avez à la fois des mouvements djihadistes, des mouvements d'autoprotection communautaire, mais vous avez également le banditisme. Mais tout cela est lié au fait que l'État a déserté, que les gens ne se sentent pas en sécurité, parce que même les zones non occupées officiellement sont abandonnées par l'armée. Donc, je pense que oui, il y a un vrai danger qui nous guette dû au fait que l'État ne joue plus son rôle régalien de sécurité, de protection et de permettre la libre circulation des personnes, de leurs biens, de protection de leurs biens. Mais il y a également que, bon, ceux qui, dans les communautés, auraient pu suppléer à cela se laissent plus aller au populisme qui consiste à flatter les bas instincts qui sont des raccourcis pour peut-être se faire valoir aux yeux de sa communauté, mais qui à la longue est un comportement qui est assez grosse de beaucoup d'incertitudes.
Walker Pinto.
Bon, en fait, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des zones qui ne sont pas encore sous occupation, mais l'administration a carrément déserté ces lieux. Mais les populations se sentent abandonnées, orphelines. Maintenant, ils s'organisent autant que peu pour au moins défendre leurs intérêts. Ça, c'est un premier signe, peut-être, c'est-à-dire qui donne le signal à ces communautés de s'organiser. Maintenant, le second signal, c'est du fait qu'il y a beaucoup de conflits qui n'ont pas été vidés, comme a dit mon directeur. Maintenant, ils profitent, ils mettent ça sur la table. Bon, maintenant, en ce qui concerne le nord, le centre du pays, vous savez que cette situation, on l'a tout le temps décriée. Parce que, comme a dit Drabo au téléphone, il ne comprend pas comment est-ce que la zone inondée de Mopti, c'est-à-dire qu'en période hivernale, on parvient à faire des attaques. Parce que tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est plus des étrangers maintenant, c'est des autochtones. Aujourd'hui, il existe un véritable chaos là-bas, c'est-à-dire que dans cette partie du pays, parce que tout simplement, les populations, il y a une véritable méfiance entre les populations, parce que moi, mon papa vient de quitter il n'y a même pas 3 mois. Vous savez que cette question, on ne peut même pas discuter avec les gens. C'est-à-dire qu'avec tes proches...
On ne peut pas discuter sur place de ces questions.
Non.
Et pourquoi?
Parce que tout simplement, chacun a peur, chacun soupçonne l'autre. Peut-être que si je dis mal, c'est-à-dire que si je parle mal des djihadistes, peut-être qu'ils ont un informateur qui va aller les informer. Il y a ce qu'on appelle l'exécution sommaire, etc., etc. Maintenant, c'est extrêmement compliqué. Dans la zone inondée de Mopti, ce n'est pas les étrangers maintenant qui font ces attaques-là, c'est des autochtones qui sont acquis pour la plupart à la cause des djihadistes. C'est malheureux.
Mais si vous avez parlé de ces, disons, cette fragmentation même au sein de ces mouvements. Vous voyez tous les jours que voilà, il y a des scissions, il y a des sous-groupes qui se forment parce que justement on est en train de perdre de vue peut-être une première revendication qui aurait pu être légitime, qui aurait pu être discutée pour arriver à un niveau justement où c'est des intérêts peut-être personnels qui vont faire que on n'est plus à même de rester dans un groupe et finalement les revendications premières se trouvent diluées dans des guerres de positionnement. Mais la raison de tout cela est que il n'y a pas de prise en main de la situation de la part de l'État, il n'y a pas, on ne sent pas une volonté réelle, aussi bien plan, du point de vue sécuritaire que politique, de chez l'État pour vraiment trouver une solution à tout cela.
Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous restons sur le premier volet de cette émission, un volet consacré à la situation sécuritaire au pays. Alors, cette situation, elle reste vraiment très préoccupante, puisque pas plus tard qu'hier, on annonçait la présence de djihadistes à une trentaine de kilomètres de Boni. Boni même qui a été l'objet donc d'une attaque. Alors, on apprend qu'il y a toujours des affrontements qui ont repris aujourd'hui à Intash Dait, c'est à 100 km de Kidal. Alors, la situation, je le disais, est préoccupante, mais les informations en provenance de vers Boni, à côté à 100 km de Boni, c'est des informations qui inquiètent. Selon vous, M. Souleymane Drabo, c'est des informations à prendre au sérieux, non?
Oui, c'est des informations à prendre très au sérieux. Parce que si on revient, par exemple, sur des attaques comme celle de Nampala aujourd'hui, il est quasiment établi qu'il y a eu des connexions entre les assaillants de Nampala et les groupes installés à Kidal, puisque une partie des munitions s'est retrouvée dans la ville de Kidal après l'attaque de Nampala. Et même dans les attaques vers Boni, il y a des connexions avec les groupes armés du Nord. Il y a maintenant une jonction entre des groupes très peu puissants qui sont installés dans la région de Boni et des commanditaires ou des parrains, si vous voulez, un peu plus au nord, qui profitent pour délocaliser un peu leurs actions et diminuer la pression qui pèse sur eux. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui sont même liés à l'accord de paix, parce que l'accord de paix a eu cet effet pervers De promettre des facilités, par exemple de DDR, aux combattants dans le nord du Mali. Et cette promesse de DDR, ça a attisé beaucoup d'appétit, et aussi bien dans les villes du nord, dans les grandes villes du nord, parmi tous les jeunes qui sont sans emploi et qui ont résisté pendant l'occupation sans avoir de résultats concrets sur leur avenir. Après, lorsque la paix est revenue, et aussi bien dans les grandes villes du Nord qu'aujourd'hui dans la région de Boni. Parce que quand on voit l'argumentation des groupes armés qui se créent dans la région de Boni, on s'aperçoit que tous ces groupes armés ont des promesses, donnent des promesses aux jeunes pour les attirer en leur disant « bon, venez, et lorsque le DDR va commencer, on va vous intégrer dans ce mouvement-là ». Donc, c'est une situation très, très, très complexe qui s'est créée. Et moi, je suis content de l'explication de Boakar sur la situation de la région de Boni. Effectivement, l'explication qu'il a donnée sur les attaques dans les zones inondées pendant l'hivernage, c'est ça l'explication qu'il fallait trouver. Donc, la situation s'aggrave et se complexifie.
Alors, Alexis Calambri, la situation est compliquée, elle s'aggrave. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour pouvoir retrouver une issue?
Il faut une prise en main, parce que si vous voyez, c'est vrai, les mouvements se multiplient, mais il y a les premiers qui se sont essoufflés, qui ont demandé des mois, des jours durant à l'État d'intervenir. C'est vrai, personne n'est satisfait des accords signés à Alger, mais il aurait fallu maintenant, un volet politique qui consisterait pour Bamako de prendre cet accord, de faire parler les gens, d'obtenir des choses qui n'étaient pas dans l'accord et en tout cas de mettre en musique ce qui a été signé. Ça aurait permis au moins que les gens se rencontrent régulièrement, qu'ils se parlent. au-delà des cadres, disons, instaurés par la MINUSMA, qui ne donnent rien du tout, mais voilà, il y a une animation politique qui revient à l'État qui ne se fait pas. Il n'y a pas l'État qui parle entre les groupes et on ne sent pas la sécurité sur le terrain. Soumelo Boubé, juste avant sa nomination, avait fait une conférence à la Maison de la Presse où il avait dit que plutôt que les militaires restent cantonnés, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps, ils sont cantonnés dans sur des places, ils sont attaqués, mais s'ils circulent, au moins ils sentiraient, disons, les djihadistes, au moins ils s'informeraient et en tout cas leur présence dissuaderait des mouvements plutôt qu'ils soient toujours dans la défensive. Donc, on est à un niveau où on ne peut accuser que l'État parce que le gouvernement ne joue pas son rôle d'animation après la signature des accords. On ne sent rien du tout.
Alors, si Boubacar Panta est d'accord avec cela, dites-nous, M. Boubacar, qu'est-ce qui fait que l'État ne permet pas à jouer pleinement sa partition? Qu'est-ce qui l'empêche de faire?
Bon, je ne saurais répondre exactement à cette question, mais c'est juste une question de volonté politique. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos partenaires sachent que ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut faire du Mali, ce qu'on veut, notre gestion de cette crise. Je crois que, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. L'accord, bon, tout le monde l'a décrié, mais il y a une des dispositions de l'accord qui prévoit une conférence d'entente nationale où les Maliens, maintenant, vont dégager une volonté commune par rapport au Mali. Donc, moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique forte parce que nos partenaires ne savent pas réellement ce que nous, on veut. En tant que gouvernement, en tant que...
Mais on, ils ne savent pas parce que le Mali ne l'exprime pas.
Parce qu'on n'exprime rien. On n'exprime rien par rapport à cette question. Ça, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, deuxième des choses, comme a dit mon directeur, mais l'armée doit sortir de cette posture de défensive. L'armée doit passer maintenant à l'offensive. Pas attaquer, mais organiser des patrouilles à des kilomètres des camps. Mais au moins, ça permet de dissuader les quelques aventuriers. Maintenant, si chaque fois, à chaque fois, l'armée tombe dans les embuscades, à chaque fois, l'armée attaque, mais finalement, où est-ce qu'on va?
Nous allons à présent aborder le second volet de cette émission, la nouvelle loi électorale, une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale cette semaine, après des amendements, notamment des amendements relatifs à la caution pour les candidats à l'élection présidentielle et le parrainage. Pourtant, l'opposition ne semble pas satisfaite de ces documents. A-t-elle raison ou tort, Souleymane Drabo?
Bon, je crois que l'opposition défend ses points de vue. Mais les critiques portées par l'opposition sont très précises. Hein. Elles sont précises, elles ont été très précisées dans un document qui a été publié. Et le principal reproche, si on entend bien ce que l'opposition dit, c'est que l'opposition regrette qu'il n'y ait pas eu assez de concertation pour ces réformes. Elle ne dit pas à ces réformes leur légitimité, ou bien leur justesse, mais elle n'a pas eu de concertation. Et je pense qu'effectivement, la concertation n'a pas été extraordinaire pour de ce nouveau texte électoral. C'est vrai, ici, c'est vraiment important parce que il vient appliquer l'affaire de Veil, il y a le final au 20 novembre. Il y a une série de rendez-vous, de circonstances, d'engagements qui poussent le gouvernement à accélérer cette adoption. Mais en fait, je pense que sur le fond, quand on regarde bien, il n'y a pas de différence fondamentale entre ce que l'opposition veut et ce que le gouvernement propose.
Pas de différence fondamentale sur l'avis de M. Drabo. Vous, Alexis Calambri, on a entendu aujourd'hui lors d'une conférence de presse, l'opposition s'est revenue donc sur ce sujet. Il y a par exemple un responsable du groupe de VRD, c'est un groupe qui fait partie donc de l'opposition, qui souhaiterait qu'il y ait une relecture. Il disait notamment qu'il y a la possibilité pour le président de la République de renvoyer en seconde lecture ces documents. Cette option, comment vous la voyez, Alexis Calambri?
Non, en fait, l'opposition est fondée parce que, n'ayant pas été concertée au départ, mais fondamentalement, sinon, il y a des choses qu'on peut difficilement discuter. Aujourd'hui, est-ce que on a besoin de relever le niveau de cotisation ou de mise des candidats pour avoir moins de candidats? Si vous demandez au citoyen, à l'homme de la rue, il va vous dire oui, parce que on se dit 10, 15, 20 candidats, c'est beaucoup plus d'argent pour le trésor.
Mais dites-nous, M. Calambri, qu'est-ce que cela change quand on élève la caution pour l'élection présidentielle à 25?
Non, je pense qu'il faut... il y a des gens... C'est vrai, le risque d'abord. Le risque, ce qu'on ne peut pas nier chez nous, c'est qu'on a une démocratie qui est en train de devenir une démocratie d'argent. Et oui, c'est vrai, là, on peut penser que cette loi va nous renforcer cela, puisqu'il faut avoir plus d'argent. Mais ce que ça va fondamentalement changer, je pense, c'est que au moins les candidats seront plus des émanations des partis politiques ou des partis implantés. On peut critiquer ou approuver, mais au moins, c'est, pour moi, ça, c'est le bon départ. Il faut que les candidats soit déjà des émanations des partis politiques. Vous savez, depuis 20 ans, le fait politique n'est pas apprécié au Mali. Je pense qu'il faut qu'on réhabilite le fait politique. Il y a des gens qui ont décidé de faire faire carrière en politique. Il faut que le moment venu qu'on leur reconnaisse ça. Mais oui, il y a le risque qu'on vire dans la plutocratie, mais en tout cas, il faut qu'on prenne par un bout dans tous les cas.
Bon, Carpentao.
Bon, en fait, moi, je crois que j'ai une lecture un peu différente de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas le quota, hein. C'est-à-dire que la caution, les 25 millions. Mais moi, les 10 députés et ou encore les 5 conseillers communaux par région. Maintenant, moi, c'est ce point qui me, parce que ça, c'est, moi, je peux pas comprendre. L'esprit de l'élection présidentielle, c'est un suffrage universel direct. C'est le peuple qui choisit directement son président. Maintenant, en procédant ainsi, c'est comme si on fait une certaine présélection pour le peuple. C'est une façon de contourner
une
présélection la Constitution.
À la place donc du peuple.
À la place du peuple, parce que maintenant, on sera obligé, le peuple sera obligé de choisir parmi, c'est-à-dire que les candidats sélectionnés par les députés. Moi, je pense que, c'est-à-dire que, comme l'a dit certains leaders de l'opposition ou encore certains hommes politiques, il fallait ajouter un troisième aliénant. C'est-à-dire que les citoyens peuvent supporter, soutenir directement une candidature. Parce que là, le risque, c'est quoi? Parce que, comme a dit mon directeur, il ne faut pas qu'on aille vers une démocratie d'argent. C'est-à-dire que demain, on risque de voir maintenant un narcotrafiquant, je mets entre guillemets, il a de l'argent, il vient, les 10 députés, ce n'est pas un problème. Les députés, vous venez, chaque député a 30 millions. Ce qui est sûr, il aura les 10 députés. Maintenant, les 25 millions, soit les 35 millions, ça ne pose pas de problème. Alors que il y a des candidats potentiels, les candidats du peuple, qui ne seront pas sélectionnés, qui ne seront pas parmi les candidats, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu avoir les nombres requis de députés. Voilà un peu le danger. Donc moi, je pense que on pouvait ajouter le troisième alinéa, c'est que les populations peuvent soutenir directement des candidatures. Bon, mais en l'état, moi, je pense que c'est une loi taillée sur mesure.
Studio Tamani, nous allons poursuivre ce débat dans un instant.
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connecté avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Parmi les sujets qui ont donc fait l'actualité, les sujets à la une de l'actualité cette semaine, il y a la migration. C'est à la faveur du lancement d'un plan d'investissement pour l'Afrique afin de freiner l'immigration. Le dispositif, selon les Européens, devrait permettre d'indiquer l'exode du continent. On dit du plan qu'il est ambitieux. On parle de 44 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique et son voisinage. Mais qu'est-ce que cela va véritablement changer? Qu'est-ce que cela peut annoncer véritablement pour l'Afrique? Je pose la question à vous, Souleymane Drabo.
Bon, ça c'est une solution qui a de tout temps été avancée, c'est-à-dire pour maintenir les migrants sur place, chez eux, ou pour les inciter à revenir dans leur pays d'origine, il faut investir dans le développement de ces pays. Donc c'est un remède qui a été défini depuis très longtemps. Mais que les pays développés là sont incapables de mettre en place. Et quand plus les sommes avancées sont importantes, plus on est sceptique sur ce qui va réellement se passer. Parce qu'on peut décider qu'il y aura telle somme qui sera disponible pour les projets de développement sur place. Mais ensuite, on va voir avec les procédures, ceci, cela, et tout va se compliquer et se bloquer. Et en fait, la question qu'on pourrait se poser aussi, est-ce que c'est possible même d'arrêter ce mouvement de migration dans un monde globalisé où les capitaux vont partout? On empêche les hommes d'aller partout. On voit le danger qu'il y a pour les migrants d'essayer de rallier l'Europe en passant par le désert, en passant par une ligne en guerre, puis en passant sur des flots déchaînés où il y a des centaines de personnes qui se noient. Et malgré tous ces dangers, les gens continuent à partir. Je crois que le responsable de l'ONU qui est en Libye vient d'annoncer qu'il y a à peu près 260 000 migrants qui sont déjà en Libye et qui sont prêts à partir pour l'Europe, à traverser la mer pour l'Europe. Donc, moi, cette solution, sur le papier, elle est très belle, mais dans la pratique, je doute qu'on puisse la mettre en œuvre.
Alexis Calambry, le plan annoncé par les Européens est certes ambitieux, mais le sera-t-il dans la réalité?
Non, ce n'est même pas ambitieux. En fait, on est obligé d'adopter le langage des nationalistes des années 60 pour dire que c'est vraiment encore une combine de l'impérialisme international. Mais regardez-le, le vrai défi, c'est de faire de la justice sociale chez nous, de faire que les termes de l'échange entre l'Afrique et l'Europe soient justes, que nous puissions vivre de notre travail. Vous voyez des gens qui savent que s'ils partent, c'est soit arriver ou mourir, mais ils décident de partir parce que ils n'ont pas d'autres alternatives. En restant ici, ils n'ont pas le choix. Vous voyez des gens qui ont fini les études, qui savent qu'ils n'ont pas de perspective ici. Et pourquoi ils n'ont pas de perspective? Parce que depuis le départ, les termes des échanges sont faussés entre nous. Donc, je pense que l'Occident n'a pas été honnête dès le départ avec nous, certes avec la complicité des dirigeants. Bon, complicité, mais on sent de plus en plus qu'ils sont impuissants. Ils ont les pieds et les poings liés. Ils sont obligés de se faire adouber chaque fois qu'un président est élu. Donc, on ouvre tout pour les Européens, mais au finish, quelqu'un qui est ouvrier ou gardien en Europe, il sait que disons, au terme de sa carrière, il aura la sécurité sociale, il aura le minimum pour vivre, mais ce n'est pas garanti pour quelqu'un qui est médecin ou magistrat au Mali, parce que quel que soit votre revenu, vous êtes dans l'incertitude. Donc je pense que ce n'est pas en injectant de l'argent de cette sorte, encore qu'on n'a aucune garantie de l'utilisation, comme disait tout de suite Solo, ce n'est pas encore de cette façon. Je pense qu'il nous faut mettre plus l'accent sur la justice sociale, sur la redevabilité des dirigeants et sur les termes d'échange entre nous.
Ouakar Paintao, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, ce plan d'investissement annoncé par les Européens pour l'Afrique?
Bon, moi je dirais tout simplement que c'est pas plutôt résoudre le problème, c'est déplacer le problème. Parce que le problème de la migration, moi je vois ça sous deux angles. D'abord sous l'angle économique, c'est qu'il y a un véritable problème de gouvernance en Afrique. C'est-à-dire que, comme a dit mon directeur, les jeunes finissent les études, n'ont pas de perspective, la famille est là, ils sont obligés de partir. Parce qu'en Afrique, il n'y a rien, il faut le dire, hein. Parce que même l'investissement qu'on va faire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie que ça soit utilisé à bon escient. Première préoccupation. Maintenant, deuxième préoccupation, il y a un véritable problème de distribution équitable de peu de ressources que nous produisons chez nous. Maintenant, ça c'est sous l'angle économique. Maintenant, sous l'angle historique, comme je l'ai dit, nous on était tranquillement chez nous en Afrique. Mais l'Occident est venu, ils sont venus nous envahir avec les armes et autres. Nous, cette fois-ci, on ne va pas les envahir avec des armes, mais on va... L'immigration, c'est une réalité historique au Mali. Par exemple, quand tu vas dans la région de Kaï, un jeune qui ne va pas en aventure, mais on n'a rien à dire à lui. Parce que, tout simplement, c'est un lâche. Il est traité comme un moins que rien, il est traité comme un lâche, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est une réalité historique. Bon. Les investissements et autres, moi je pense que il faut plutôt s'appuyer sur la gouvernance en Afrique. Parce que dans la plupart de nos pays, c'est le chaos un peu partout. Hein, c'est le chaos un peu partout où même les entreprises... regardez aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom d'une société. Même l'hydrocarbure, ce que nous consommons tous les jours, mais il faut qu'une autre société vienne nous montrer comment est-ce qu'on gère ça. Mais ça ne va pas.
Nous allons parler d'une affaire, qui va certainement faire grand bruit. L'ONG Public Eye, qu'on appelait par le passé déclaration de Berne, vient de faire une révélation détail. Des sociétés de négoce suisses exporteraient en Afrique des carburants toxiques. 8 pays africains sont cités, dont le Mali, dans une station de pompage, dit-on, d'Adax et d'Oryx au Mali. Les carburants contiendraient 378 fois une quantité de soufre supérieure à celle qui est autorisée en Europe. L'UNAPO s'est exprimée, elle demande l'information, l'ASCOMA s'inquiète, mais est-ce que ce n'est pas le début d'un véritable scandale, Souleymane Drabo?
Oui, en fait, ce ne serait pas étonnant que ce carburant de très très mauvaise qualité arrive au Mali. On envoie même des produits alimentaires... du poison alimentaire dans nos pays, des animaux de mauvaise qualité, des poulets, de la viande, donc vraiment du carburant, ça n'étonnerait personne. Et le cynisme des sociétés qui font commerce avec l'Afrique est connu. On a vu l'affaire du Probo Koala en Côte d'Ivoire où les déchets toxiques ont été déversés à Abidjan. C'est dans la même tradition, si vous voulez, de gens qui ne mettent rien au-dessus de leurs intérêts. Et au Mali, on est particulièrement vulnérable à ce genre d'opérations. Non que, bon, on soit plus corrompu qu'ailleurs, ou bien non, c'est pas ça. On n'a pas la culture de l'environnement. Sur cette question des carburants, par exemple, on n'a pas la culture de l'environnement, de la défense de l'environnement. Regardez les partis écologiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus au Mali ici, les associations écologiques. Non, on n'a pas cette culture-là encore. On ne se préoccupe pas assez de notre environnement. Et ça, avec cette histoire de carburant, c'est très dangereux. Et on n'est pas sur la voie même de corriger ça. Est-ce que vous vous souvenez quand le Mali a commencé à importer de l'essence sans plomb, mais il n'y a pas aussi longtemps que ça. Et par rapport à d'autres pays, on était très largement en retard. Donc, il y a un grand, grand travail d'éducation et de sensibilisation à faire sur les problèmes d'environnement et sur les problèmes de santé que pose l'environnement.
Alexis Calambri.
Oui, moi, franchement, ça n'étonne pas. Comme disait tout de suite, il y a ce cynisme du grand capital. Amusez-vous à acheter de l'aspirine en France. Et même marque, hein, aspirine en France et aspirine fabriquée en France destinée à l'exportation en Afrique. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. Du savon de même marque en France, destiné au marché français et destiné à l'exportation en Afrique, vous verrez la différence. Donc, déjà, on a fait de nous des sous-consommateurs. On a beau mettre en place des structures de contrôle et de normalisation, on voit que ça ne donne rien. Il y a dès le départ que nous sommes considérés comme des sous-consommateurs et nous ne faisons rien nous-mêmes, oui, par manque de culture dans certains domaines, mais par manque de volonté politique aussi.
Wakar Pintao.
Bon, en fait, cette question d'hydrocarbures, moi, je le vois plutôt sous l'angle un peu concurrentiel. Parce que tout simplement, RFI, qui a fait, je crois, toute la journée d'aujourd'hui ou d'hier, a annoncé ça, mais Total est là. Total, c'est la France. Maintenant, bon, pourquoi viser exclusivement les sociétés suisses? Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'architecture des stations d'essence au Mali, c'est Shell, Oryx et Total. Maintenant, bon, moi, de mon point de vue, c'est de bonne guerre. Maintenant, il faut amener une information pour amuser la galerie. C'est juste concurrentiel. Je vois ça sous cet angle-là. Hein. Sinon, ben, moi, je peux pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre. Mais chaque fois que nous on veut avancer, on nous apporte quelque chose. Donc, nous, on va perdre le temps à discuter là-dessus. Moi, je vois ça sous cet angle seulement. Parce que, bon, aujourd'hui, Total veut s'imposer, mais il a du mal à s'imposer parce qu'il y a Shell, parce qu'il y a chose Oryx. Maintenant, il faut des informations de ce genre.
Mais bon, l'information nous provient d'une ONG qui n'est pas quand même française.
Oui, mais non, mais c'est de bonnes guerres, hein. C'est de bonnes guerres, Foma.
Oui, ce qui se serait passé, ce qui dit n'est pas jeté aux orties, ce qui se serait passé, peut-être que, oui, si ça concernait des multinationales françaises, on ne l'aurait jamais su, ou on n'aurait pas fait des tonnes comme on le fait maintenant. Mais oui, c'est vrai que même si vous prenez les carburants de ces sociétés, vous comparez à ce qu'ils donnent chez eux, vous verrez qu'il y a une différence au niveau des normes.
Mais on peut se tromper justement en réfutant immédiatement quand même ce qui est dit dans ces rapports. C'est cela que je voulais attirer l'attention de monsieur.
Non, pas réfuter. Voilà. J'ai dit que moi j'ai une lecture. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas obligé de voir comme les autres voient, hein, mais moi j'ai une lecture de tout ça. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça qu'on procède. Hein. À chaque fois que nous, on veut avancer, on nous amène quelque chose, on va perdre énormément de temps. Vous allez voir qu'on va faire plus de 2 semaines, 3 semaines à discuter. Ouais,
mais vous n'avez pas l'impression que...
Entre-temps, c'est-à-dire que l'actualité, on nous dévie chaque fois de l'essentiel.
Oui, mais n'avez-vous pas l'impression que ça pose quand même un véritable problème, celui du contrôle quand même des produits que nous consommons, Alexis Calambri?
Oui, c'est ça le vrai danger. On a assez de structures de contrôle maintenant. Vous avez l'Agence nationale de sanitaire de l'agence de sécurité des aliments, vous avez l'agent de contrôle de qualité, vous avez beaucoup de structures qui autorisent la mise sur le marché des produits, donc qui ont des normes auxquelles ils comparent, mais soit ça ne se fait pas, soit on a des normes au rabais où le matériel est défectueux, et il y a également les questions de corruption.
Oh, ce n'est pas aussi simple que cela. C'est donc tout pour le forum de la presse de ce vendredi. Comme invité, nous avons reçu Souleymane Drabo, éditorialiste à l'essor de Tête en ligne. Dans ce studio était présent Alexis Calambri, éditorialiste également lui, aux Échos, et Boubacar Pintao, qui est de l'Indépendant. À la mise en onde, il y avait Sedumbo, à la régie vidéo Nohondjire, à la réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation moi-même, Seydou Foma. On vous remercie et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un autre forum de la presse. Bon week-end à toutes et à tous.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi.
et Dawani Wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandi.
Chenne Berry.